Et que France Inter et Mermet racontent des histoires pessimistes, tu l'as dit tout à l'heure. Je me suis dit, on va raconter une histoire optimiste. Une histoire de lutte, et de lutte qui, apparemment, en tout cas, débouche sur, peut-être pas une victoire, mais en tout cas une résistance qui est intéressante à compter. Voilà. Ça se passe dans les Landes Girondines. L'article est parti d'une discussion que j'ai eue avec... justement, le camarade Bonelli. Et on parlait effectivement de ces petits blancs de la campagne à partir d'un livre de...
Rénaï. Les gars du coin, qui est un très beau livre sur les ouvriers ruraux.
Sur les ouvriers ruraux, sur les petits blancs de la campagne. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à cette histoire. Je suis originaire de Bordeaux et je connais un peu cette région du sud de la Gironde. Et l'histoire mérite d'être contée. C'est une entreprise classique, familiale, 200 salariés, la plus grosse entreprise du coin, qui fabrique des portes en bois, avec donc des petits blancs, hein, vraiment ce prolétariat des campagnes, dans une entreprise paternaliste, où tout fonctionne au fond, sur ce mode de gestion, qui a bien sûr ses inconvénients, mais aussi, entre guillemets, ses avantages. En tout cas, où il existe un équilibre qui peut faire face, par exemple, à une insécurité locale. Les ouvriers vont à l'usine, savent à quelle heure ils vont travailler, savent à quelle heure ils vont revenir, reviennent chez eux. Il y a un équilibre. Hein. L'usine, comme il me disait, ne leur prenait pas la tête. Quand on y rentrait, on y travaillait. Quand on y sortait, c'était fini. Et ça permettait de trouver cette équilibre d'ouvriers depuis des décennies à la campagne entre la chasse à la palombe, la pêche, le club de rugby, le cochon, le jardin, les petits travaux qui permettent d'améliorer le SMIC parce qu'on est guère payé plus haut que le SMIC. Mais voilà, le samedi, le dimanche, on peut aller amener le garçon au rugby, la fille ailleurs. On peut faire un équilibre comme ça. Et cet équilibre permet d'éviter, de contrôler aussi les jeunes, d'être là. On en revient à ce débat sur la sécurité et l'insécurité. Seulement, même sous le pain des Landes et au fin fond des Landes girondines, la mondialisation peut arriver. Et il se trouve que Paris Cochet, un des plus grands fonds d'investissement du monde, KKR, va mettre le grappin sur cette usine. Alors, je dis Paris Cochet parce qu'entre-temps, cette usine avait été rachetée en 1993 par une multinationale canadienne qui s'appelle Masonite, spécialisée dans le bois, mais qui, grosso modo, foutait la paix au chef d'entreprise qui était le fils du fondateur. Il tutoyait tous les 200 ouvriers qui le tutoyaient. Il allait même boire un pot avec les préférés, peut-être le vendredi soir. Il tenait le club de rugby. Il n'y avait pas de syndicat, bien sûr, parce qu'autrement, il aurait foutu le poing dans la gueule à celui qui aurait voulu faire un syndicat. Mais bon, voilà. Il a aligné les 2000 euros pour réparer la bagnole de l'ouvrier quand elle avait aligné un chevreuil sur la route. Voilà. C'était un équilibre, je vous dis pas parfait, mais c'était un équilibre qui existait tant bien que mal. KKR qui arrive, c'est tout à fait autre chose. Alors le fonds d'investissement KKR, hein, pour vous dire, les gars des Landes se retrouvent collègues avec la chaîne d'hôpitaux, les infirmières américaines de la chaîne d'hôpitaux HCA, les vendeurs de jouets italiens et australiens des magasins Toys R Us, les installateurs danois en télécom de TDC, les téléconseillers français de Page Jaune, les ouvriers américains de Kodak, les ouvriers français de Legrand. Vous voyez, ils détiennent à peu près 51 entreprises, 218 milliards de dollars de chiffre d'affaires de ces entreprises-là. C'est quand même quelque chose, surtout pour des pauvres Landais qui n'étaient pas habitués à savoir qu'ils allaient rentrer dans cette mondialisation. Les KKR, en l'occurrence, hein, c'est Kravitz, Henri Kravitz, qui est 201e fortune américaine avec 4,2 milliards de dollars, George Roberts, 237e avec 3,8 milliards de dollars, et Jérôme Kohlberg, 321e avec 1,5 milliard. Et là, effectivement, ils vont voir ce que c'est la joie du management moderne. Le patron est viré un petit matin, il a juste le temps de prendre son ballon de rugby qui trône sur son bureau. Bon, il aura une petite somme derrière. Et il fout à la place un manager qui vient de Valeo, l'équipementier automobile, très subtil, et un autre de Danone, aussi subtil. C'est pas parce qu'il fait des yaourts, si vous voulez, que tout ça, ça passe bien et que c'est brassé dans la douceur. Et là, l'entreprise, comme ils disent, commence à nous prendre la tête. C'est-à-dire qu'au fond, on peut assister au fin fond de en Girondine, au syndrome France Télécom qui arrive, avec un management qui va commencer à harceler les gars, qui va commencer à les faire changer de poste comme ils veulent, à les vouloir faire travailler samedi, dimanche, à vouloir les faire quitter après 5 heures alors qu'eux, ben, ils reviennent et ils peuvent s'occuper des gamins. Enfin, tout un équilibre qui, bon an, mal an, assurait quand même un genre de paix sociale dans le coin et qui va mettre à mal tout ça. On peut se dire qu'après 40 ans quand même, plutôt de renoncement à la lutte de la part des salariés, c'est mal barré. Et bien c'est là où on peut encore avoir de l'espoir et où l'être humain nous réserve des surprises. C'est qu'il se trouve que là-dedans, il y a un vieux copain qui refusait le travail depuis très longtemps et chassé par ceux qui veulent remettre les RMIs au travail, est obligé d'aller travailler dans cette boîte. Le problème, c'est que c'était un gars qui avait une conscience politique et une pratique politique très forte. Et tant que c'était le patron paternaliste, bon, ben voilà, il faisait avec. Et à partir de KKR, ben lui se met à vouloir résister. Il va chercher un mandat de délégué syndical CGT. Les autres l'observent un peu et ils voient qu'il se met à résister. La goutte d'eau qui fait déborder le vase a lieu, c'est en 2005, le rachat de KKR, a lieu il y a 2-3 ans à peine, et le nouveau patron de Valeo veut toucher aux vacances de Noël. C'est-à-dire que la veille des vacances de Noël, il veut leur faire bouger les vacances de Noël. Alors les gars, ils disent, bah non, Noël quand même, on ne fait pas ça. Et pour la première fois, le gars il dit, bah, on va manifester, oui. Et ben ils seront 120 à manifester pour la première fois de la vie sur 200 devant les bureaux, hein. On monte une section syndicale, oui, la CGT, ben pourquoi pas. Et il monte une section syndicale. Le maire d'hiver droite de Bazas, qui a une sainte trouille, c'est que sa boîte se barre, c'est la dernière de sa ville un peu grande, offre même des locaux.